la question qu'à l'âge répond tout de suite, puis on avancera. En quoi la philosophie, en dehors de la foi, peut m'aider et m'intéresser à avoir une répercussion dans ma vie humaine quotidienne? C'était une des questions qui se posait régulièrement à Fribourg, lancée par les étudiants. Pourquoi la philosophie? Quel intérêt y a-t-il? Alors je disais, aucun intérêt, je répondais comme ça, mais ça nous rend intelligents. Alors là, ils n'avaient plus quoi répondre. Mais c'est comme aiguiser des couteaux. À quoi ça sert d'aiguiser des couteaux? C'est pas en aiguisant qu'on coupe la viande, mais le couteau aiguisé pourra couper la viande. La philosophie ne va pas vous montrer comment vous devez prendre votre petit déjeuner le matin. Elle ne fera pas comprendre de la manière dont on fait la cuisine. Mais elle vous fera comprendre que l'art intervient dans notre vie humaine et nous permet de faire les choses avec un peu plus d'intelligence. La philosophie va aiguiser votre intelligence pour chercher la vérité. Elle vous rendra plus éveillé, plus attentif. Elle vous montrera les points les plus importants de notre vie. Elle vous fera comprendre quelle est la finalité de l'homme. C'est au fond, la philosophie, c'est éveiller notre intelligence. Pour que notre intelligence puisse davantage réfléchir et mieux comprendre ce qu'on fait. Telle chose, c'est pas un bouquin de recettes. Non, rien à voir. Mais c'est nous faire comprendre qu'il y a en nous une âme spirituelle. Et que cette âme spirituelle, quand elle est un peu éveillée, nous permet de porter des quantités de choses. Vous savez, quand on dit ce malade, il a bon moral. Et grâce à ça, il y a des chances que ça aille mieux. Quand le médecin dit « mauvais moral », personne qui s'intéresse à lui. Ça, c'est très mauvais. Il va dégringoler. C'est pas la morale qui le guérit. C'est pas la visite d'un ami qui le guérit. Et tout ça contribue à lui permettre d'être un peu plus conscient de ce qu'il fait. Et cette conscience à l'égard de ce qu'il fait lui permet d'envisager les diverses questions de sa vie humaine avec plus d'intelligence. C'est constamment ça. Alors, je précise encore, il y a deux grandes orientations de la philosophie. Une philosophie dite pratique et une philosophie dite spéculative. Philosophie contemplative qui nous apprend à contempler. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire à réfléchir et à être intelligent. Et puis une philosophie pratique qui nous apprend à être responsable de nos actes. L'éthique. La morale. Il y a une philosophie de l'art qui nous fait réfléchir sur la manière dont nous pouvons ennoblir notre intelligence par l'art. Il y a une philosophie politique qui nous apprend à mieux comprendre et à mieux voir la place de l'action politique dans notre vie. Même si on ne fait pas de politique, on est citoyen. Qu'est-ce que c'est que d'être citoyen? Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Qu'est-ce que c'est que la réflexion sur la coopération d'un homme avec un autre homme? certaine manière, lui enlever ce droit qu'elle a eu jusque maintenant d'être le fondement de toute communauté politique. On dira parallèlement à la famille, à d'autres communautés, le tout c'est de reconnaître la communauté humaine, peu importe comment. Tout le problème d'aujourd'hui, ils vont l'avoir en Chine dans peu de temps. Je suis au courant parce que j'ai ma nièce qui y va. Elle a dû se battre, à partir des États-Unis, pour qu'il y ait, dans cette réunion qui a lieu à Pékin, qu'il puisse représenter qu'est-ce que c'est que la famille chrétienne. On l'avait complètement télescopé. Bon, c'est une chose internationale. Elle m'a dit qu'elle avait dû se battre, parce qu'on ne comptait pas du tout ce que c'est que famille chrétienne. Alors elle a demandé une réflexion philosophique sur la famille. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et une réflexion sur la famille chrétienne. Elle s'est tellement bien battue qu'on a accepté. C'est la seule fois de ma vie où je regrettais de ne pas être évêque. sont les idées exclues. Et le Saint-Père ne recevait que les évêques français. Mais j'ai voulu savoir ce qu'il avait dit. Je n'ai pas interrogé les évêques. J'ai attendu que la documentation catholique nous communique le texte du pape. Là, j'étais sûr de l'avoir. Et le Saint-Père dit aux évêques, à la fin de son exhortation, l'Église, aujourd'hui, vit une méta-tentation. Une tentation comme elle n'a jamais encore vécu. Quand le Saint-Père dit méta-tentation, c'est un terme philosophique. On dit métaphysique. Alors lui dit méta-tentation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire la tentation dans ce qu'elle a de plus radical, de plus profond. Et il ajoute, l'Église n'a jamais vécu ça. Vous voyez, on a toujours la tentation de dire, ça a toujours été comme ça, non, pas du tout. Le Saint-Père note que les attaques du démon aujourd'hui sont bien plus subtiles qu'elles ne l'ont jamais été. Et c'est pour ça qu'il dit que l'Église vit une méta-tentation. C'est impressionnant quand un pape dit ça. Aucun pape n'a dit ça. Et il précise, l'Église vit cette méta-tentation, c'est-à-dire, on est en présence d'une culture humaine qui se veut culture humaine où l'humanité a atteint un âge adulte. Elle n'a plus besoin de sauveur. L'homme peut, grâce au progrès scientifique et technique, prétendre qu'il n'a plus besoin de sauveur. Ça, c'est impressionnant. D'entendre ce jugement du pape. Autrement dit, la culture dans laquelle vous êtes, pour les plus jeunes, pas ceux de mon âge, vous êtes né dans un climat de culture où on chasse le sauveur. Oui, c'est impressionnant. Quand on voit l'évangile de Saint-Luc, il n'y a plus de place pour Marie et le fils qui doit naître d'elle, Jésus, à l'hôtellerie. 2000 ans après, le pape note, il n'y a plus de place dans la culture moderne qui monte pour le sauveur. L'homme n'a plus besoin de sauveur. Il croit pouvoir se sauver lui-même. Et le Saint-Père souligne que c'est la tentation la plus radicale qui soit, la méta-tentation. L'humanité se croit capable de se sauver elle-même. Impressionnant, ça. Ça n'a pas été beaucoup répété, c'est pour ça que je le répète, moi. Parce que je trouve que quand un pape dit ça, c'est quand même quelque chose, c'est le signal d'alarme. C'est impressionnant, le signal d'alarme en pleine nuit, vous savez. J'ai vu ça une fois, il y avait des grèves à Paris, et les trains internationaux, seuls les trains internationaux marchaient. Je partais pour la Suisse. Il fallait à tout prix que je parte. Je prenais le train de nuit, comme souvent. Alors j'ai vu que ce train, normalement, selon les grévistes, ne devait pas partir. Et donc j'ai monté dans le train. J'ai compris après coup. Certains qui étaient contre ce départ du train, qui ont monté dans le train, et qui, quand le train s'est commencé à se lancer, on était, je sais pas, à la hauteur de 150 km de Paris, vers Lausanne. Il était tard, il était 11h du soir, minuit. Ils ont tiré sur la sonnette d'alarme. J'étais presque à côté de, j'étais pas à côté de, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été à côté. J'étais presque à côté d'eux. Je me suis dit, après, j'aurais dû être là. Parce que les autres dormaient, vous voyez, ils ont endormi. Alors j'ai vu, c'était le signal d'alarme la nuit. Et puis le train stoppe automatiquement. Et là j'ai vu la porte s'ouvrir et puis dégringoler. Quand le train allait encore assez vite, mais dégringoler. Là on a cherché, puis, vous savez bien, on doit chercher à travers tout le train à quel endroit le signal d'alarme. C'est impressionnant un signal d'alarme la nuit, dans un train qui commence à... Bien, pour moi, quand le pape dit ça, c'est un signal d'alarme. Personne ne fait aucune attention. On continue de rouler. Tout ça va pas trop mal. On a encore du pain tous les jours, un peu de lait. De temps en temps du chocolat. Ça va pas trop mal. Quand même, on mange à peu près à sa faim. Sur tous les jours, il y a des prémices. On mange à peu près à sa faim. C'est pas encore trop mal. Attendons. Le pape souligne une humanité qui ne s'occupe plus de Dieu, va à la dérive. C'est vrai. Une humanité qui nie Dieu va à la dérive. Il n'y a plus de place pour le sauveur dans la culture d'aujourd'hui. Cette culture va à la dérive, elle ne sait plus où elle va. Et des gens extrêmement compétents, de plus en plus, ça me frappe énormément, depuis quelques années, des gens de plus en plus compétents signalent cela. On vit sur un monde, sur une économie fallacieuse, trompeuse. On est lancé, mais il y a un signal d'alarme. Alors ça peut durer un certain temps. Certains temps, je ne veux pas être prophète de malheur. Mais on doit être attentif à ce que dit le Saint-Père. C'est-à-dire que ça doit être pour nous tous un appel à se réveiller pour comprendre que l'homme qui se dit athée a une conception de l'homme qui n'est pas complète. L'homme est fait pour adorer son Dieu, pour reconnaître l'existence de son Dieu. Ce n'est pas un point de vue confessionnel, c'est un point de vue de nature humaine. Et donc, prétendre que Dieu n'existe pas, c'est mutiler l'humanité. Et on est en présence de cette mutilation qui dure depuis 150 ans, à peu près. Depuis 150 ans, toute une philosophie athée, une idéologie athée qui se répand. Et l'homme continue de vivre comme il peut. Mais il y a ça, signal d'alarme. Le pape donne le signal d'alarme. Vous voyez, c'est là où on voit de l'importance pour nous de savoir ce qui est naturel à l'homme et ce qui est surnaturel. Pouvoir faire le discernement entre ce qui est naturel à l'homme pour son bien naturel, son bonheur naturel et le bonheur surnaturel. Seule la philosophie peut le faire. Puisque la philosophie creuse ce qu'est la nature humaine, ce qu'est la personne humaine. Alors elle voit tout de suite ce qui n'est pas d'ordre naturel et qui provient tout simplement d'un don gratuit de Dieu. Quelque chose qui nous dépasse. Mais elle est fidèle à bien montrer la différence. Une politique humaine doit maintenir la place pour toutes les dimensions humaines. Alors parmi ces dimensions humaines, il y a l'attitude religieuse. dieu, un dieu sauveur, un dieu capable de nous sauver et qui nous sauve. Jésus, c'est la foi, c'est quelque chose qui dépasse. Mais affirmer l'existence de Dieu, c'est naturel pour l'homme de l'affirmer. C'est son bien naturel. Vous voyez, c'est là l'intérêt pratique de la philosophie. Je ne vis pas de la même façon si je crois que Dieu existe ou si je dis Dieu n'existe pas. Je ne vis pas du tout de la même façon. Je crois que Dieu existe, bien dans ma vie, il y a une place pour la prière. Il y a une place pour invoquer Dieu. Et les anciens, même les païens, qui pensaient que Dieu existe, que un Dieu existe, un Zeus, maintenaient la prière. Dans les moments difficiles, et les philosophes n'hésitaient pas de s'arrêter pour invoquer Dieu. C'est pour ça que je continue de faire la prière au début, même si on fait de la philosophie. On s'arrête, on croit que Dieu existe, on le prie. Dire Dieu n'existe pas, vous voyez, c'est mutiler l'homme. C'est lui enlever sa plus grande force de conquête, de joie et d'amour. Et c'est tôt ou tard stériliser l'humanité. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. La philosophie est au-dessus des aspects confessionnels particuliers. Mais la philosophie doit défendre les droits de l'homme. La philosophie doit rappeler la dignité de l'homme et la grandeur de l'homme.
Le philosophe a
source. Il faut accepter d'être seul. Et on remonte à la source. Quelle est la source de l'homme, de l'âme humaine? C'est Dieu. Le premier philosophe, c'est de remonter à la source. Il faut accepter d'être seul.
Ils se disaient tous orthodoxes.
sûr qu'elle existe. Oui, mais la science ne la découvre pas. C'est vrai, c'est pas le but de la science. J'essaie de comprendre la différence entre la philosophie et la science. Mais ils étaient tous, plus ou moins, vous voyez, contaminés par ce qu'on appelle le positivisme. C'est-à-dire que la seule connaissance valable, c'est la connaissance scientifique. Il n'y a pas d'autre connaissance valable. Alors d'une part, ils avaient la foi, c'était orthodoxe. Et puis d'autre part, en tant que savant, ils ne savaient plus très bien. Donc l'homme comme tel n'avait plus ses droits de dire « j'ai un corps et une âme ». Il ne savait plus s'il pouvait le dire. Ça m'a beaucoup impressionné. On a passé tout le repas du soir, l'apéritif y compris, tout le repas du soir, à discuter, savoir « est-ce qu'il y a une âme ?» Mais la grande question que se posait Platon, que se posait Aristote, y a-t-il une âme? Les philosophes allemands posent la question de cette manière. Est-ce que c'est un mythe, mythos? Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que c'est un logos? Affirmer l'existence de l'âme selon les traditions religieuses, est-ce que c'est un mythe? Donc quelque chose qu'on donne aux enfants. Les croyants sont des petits-enfants. Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est valable? Toute la philosophie de Platon, c'est pour montrer que l'âme existe réellement. Toute la philosophie d'Aristote, c'est pour montrer que l'âme existe réellement. Ceci, donc, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et quand vous regardez la grande révélation judéo-chrétienne, vous voyez qu'on affirme tout de suite que l'âme est créée par Dieu. Quand vous regardez ce qui est dit dans la Genèse, sans doute 700 ans, 700 ans avant Jésus-Christ, Dieu façonna le corps de l'homme, il influe, il souffla pour donner un souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est l'âme. Vous retrouvez là encore âme et corps. Distinction capitale selon les traditions religieuses. Toutes les traditions religieuses impliquent une distinction de l'âme et du corps. Mais le philosophe doit se poser la question, est-ce que c'est un mythe? Je ne sais pas s'il est un poisson. Le filet, c'est la méthode scientifique. Tout ce que la méthode scientifique prend, ah oui, c'est un poisson. Mais ce qui est en dehors de la méthode scientifique, je sais pas. Or, l'âme est en dehors de la méthode scientifique. Puisque la méthode scientifique regarde tout ce qui est mesurable. L'âme est en dehors. Si l'âme est en dehors de la méthode scientifique, elle n'existe pas. Pour le savant. Il faut tout de suite ajouter pour le savant. Est-ce que la connaissance scientifique est adéquate à la science humaine? Non. Je vous en donne un exemple très simple. Quand vous aimez quelqu'un profondément, quand c'est un ami, vous connaissez cet ami, vous le connaissez, parce que vous l'aimez. Cette connaissance affective n'est pas la connaissance psychologique, n'est pas la connaissance biologique. Et on vient vous dire, voilà ce qu'il est au niveau science biologique. J'ai un ami à Paris qui enseigne la science biologique en médecine et qui m'a dit, moi, quand je vois un homme venir vers moi, je dis, quelle belle cathédrale de molécules. C'est admirable, cette cathédrale de molécules. Alors je dis, mais il y a un petit quelque chose. Oui, mais c'est quand même une belle cathédrale de molécules. Je dis, oui, mais ça tient tout seul, comment ça se fait ça? Quand même quelque chose qui fait que ça tient tout seul. Alors, quand même, c'est un ami, je le blague un peu comme ça. Et il répond, tu restes très bien, parce qu'il est croyant. Il avait dit, mais quand même, au point de vue de la foi. Ah oui, mais ça c'est la foi. Non, la philosophie peut le dire. Oh, avec votre philosophie, oui. Oui, alors, il y a les deux, connaissances scientifiques, puis la foi. Oui, il n'y a rien entre deux. Le philosophe est là pour montrer qu'il y a d'autres connaissances naturelles qui sont des connaissances humaines qui ne sont pas nécessairement scientifiques, qui a autre chose que les connaissances rigoureusement scientifiques, et que l'âme, si elle existe, ne peut pas être atteinte par la méthode scientifique. Elle échappe. On va voir ça. Ça c'est très important. C'est même capital. Alors, vous comprenez que ce sujet, connaître l'homme comme vivant, c'est le sujet fondamental aujourd'hui. Parce que la science biologique ayant fait de très grands progrès durant ce siècle, quand vous regardez la différence du début du siècle au point de vue de la connaissance de l'embryon et la connaissance actuelle, on a découvert cela. Une découverte étonnante. C'est vrai. On a découvert les étapes successives du développement de l'embryon. C'est beau de voir ça. C'est très très beau. C'est un progrès scientifique. Je me souviens, il y a quelques années, c'était un voyage charité à Poissy. On avait réuni, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était des amis. On était un public, on était une quarantaine de personnes. Mais beaucoup de PDG, des scientifiques, polytechnicien, un public très très sélecte. On avait demandé à un professeur d'université de médecine, quelqu'un que je connais maintenant bien, qui est un ami, de faire une conférence sur le vivant. C'est dommage que je n'ai plus sa conférence. Elle a duré 3 heures. faut la relire, ça aurait duré 3 heures. C'était palpitant. C'était extraordinaire. Il montrait tout ce que la science pouvait dire sur le vivant, l'homme. L'homme vivant. C'était prodigieux. Puis après, puisque j'étais là, j'étais invité. Après, on m'a dit, Père Philippe, maintenant, dites ce que le philosophe peut dire sur l'être humain vivant. C'est pas commode de parler après un scientifique, science biologique, très calé, et disant les choses admirables, admirablement. J'ai dit tout ce que ce professeur a dit. Relève de l'expérience, de l'expérimentation, relève d'une connaissance extrêmement poussée, microscope électronique, où on essaie de saisir le vivant dans ce qu'il a de tout à fait fondamental. Et tout ce que vous avez dit sur les caractères du vivant, magnifique description. Étonnante. Et je dis, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je pose tout de suite la question. Tout ça est le fruit d'expérimentation du microscope électronique. Il y a 150 ans, on ne savait pas tout ça. On ne savait pas tout ça. Il est bien évident qu'Aristote ne le savait pas. Que Thomas d'Aquin ne savait pas. Pourquoi le philosophe qui veut parler du vivant ne se sert pas du microscope électronique? C'est une bonne question, hein. Et je crois que ça vous aide à comprendre tout de suite. C'est vrai, je ne me sers pas. Ce que je vous dirai n'est pas le fruit d'une expérimentation du microscope électronique. C'est le fruit de mon expérience directe. Pourquoi le philosophe ne sert pas du microscope électronique? Pourquoi? Si c'est par fidélité à Aristote, à Thomas d'Aquin, c'est un imbécile, d'une fausse fidélité. Par fidélité à Aristote, je ne me sers pas d'électricité. Et je continue de m'éclairer au petit lampion. Par fidélité. Thomas d'Aquin n'a jamais eu l'électricité. Donc tout ce que ce Thomas d'Aquin a dit doit se voir sous une autre lumière que celle de l'électricité. La lumière du jour. Ça avait l'avantage que on pouvait avoir de bonnes nuits de prière ou de sommeil. Tandis qu'on n'était pas obligé de continuer de travailler à la lumière électrique, ce qui allume les yeux. Pourquoi le philosophe ne sert pas du microscope électronique? Pourquoi? Si c'est par fidélité à Aristote, c'est de la bêtise. Alors, c'est pourquoi? Ah, c'est que le philosophe veut saisir le vivant, les opérations vitales, comme opérations vitales. Il dit, vous voulez faire l'analyse du sang. Pour faire l'analyse du sang, vous êtes obligé de piquer. Et vous devez vite analyser la goutte de sang. Autrement, ça va mourir. Ça sera plus du sang vivant. Alors vous tuez l'animal pour le connaître. C'est vrai, c'est quand il est mort qu'on peut le dépecer. Quand il est vivant aujourd'hui, on peut faire des opérations à cœur ouvert. Avant, on ne pouvait pas. On peut faire des opérations extraordinaires aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est quand même jamais le vivant qu'on saisit. Pour saisir le vivant, vous le saisir de l'intérieur. Ah, ça, là, je chose très curieuse. Je me saisis, vous parlant, avec une voix cassée. Non, je me souviens toujours. C'était Moria, qui venant à Fribourg en 1945, sitôt la guerre. J'étais encore jeune, j'avais une bonne voix à ce moment-là. Et je vois Mauriac avancer avec des tas de trucs. Il n'y avait pas, maintenant on n'a plus qu'à mettre un petit truc comme ça, ça va. Mais là c'était beaucoup plus compliqué. Il a commencé à dire, avec sa voix cassée, c'est la voix cassée de la France qui vous parle. Ça j'ai retenu. J'ai toujours envie de commencer comme ça. C'est la voix cassée de la France qui vous parle. Ou c'est la voix cassée de l'Église qui vous parle. Alors ça, c'est... Eh bien, attention, vous prenez cette voix cassée, ça sert des profondeurs. C'est vrai, on fait l'expérience d'avoir une voix cassée. On fait l'expérience d'avoir mal à la gorge. Hein? Quand on doit parler, c'est pas drôle. C'est vrai. On fait l'expérience, je me souviens, ce professeur de philosophie à Lausanne. Il avait un cancer. On lui avait coupé le bras, espérant le sauver comme ça. Alors il m'a dit, je fais l'expérience d'un être humain qui n'a plus de bras. J'ai pas envie de faire l'expérience. Mais ça m'est arrivé. Je fais l'expérience de l'être humain qui n'a plus de bras. Pourquoi ? Parce que le vivant se saisit de l'intérieur. Et c'est pour ça que je ne veux pas me servir du microscope électronique. Pas du tout parce que je ne l'aime pas. J'ai dit, le microscope électronique va saisir quelque chose qui n'est pas le vivant. Qui peut-être appartient au vivant, mais qui n'est pas le vivant. Moi, je veux, en tant que philosophe, saisir le vivant. Et autre chose est de manger le lapin, le lièvre, et de le poursuivre le soir avec une automobile, avec des phares. Hein, petite bête, elle galope à toute vitesse, on lui donne des stress terribles, ça. Je suis assez longtemps, mais ça t'arrive, il ne peut plus. Et alors il se précipite de lui-même sur les phares. C'est curieux, ça. C'est pas la même chose. Vous ne connaissez pas le lièvre quand vous le mangez, quoi. Vous connaissez la viande, oui. Mais vous ne connaissez pas le lièvre. Moi, j'aime mieux le regarder, courir, galoper. Être traqué. En situation limite. C'est extraordinaire de voir ça. Tandis que quand je le mange, oui, c'est bon. Mais c'est pas la même chose. Vous voyez, je vous dis ça, c'est très important, parce que ça montre qu'il y a diverses connaissances. On peut manger le lièvre. On peut le regarder. En liberté, ou dans une cage à lapin. Un lièvre dans une cage à lapin. Prisonnier toute sa vie. On peut regarder l'être humain que je suis, vivant, de ma propre expérience de vivant, essayer de capter qu'est-ce que c'est que l'opération vitale, qu'est-ce que c'est que le vivant, je le saisis de l'intérieur. Si je le regarde de l'extérieur, je ne sais pas ce que c'est, vous savez bien. Vous avez vu, je présume, la première fois qu'un petit chat se voit dans la glace. C'est très curieux. Il lève la patte. Et en face de l'autre, de lui, l'autre lève la patte. Ah, regarde. vous, quand vous regardez dans la glace, vous savez bien que c'est vous. Alors si vous levez la patte, c'est normal. Le petit chat, il lève la patte, qu'est-ce que c'est que ça? Il est tout étonné. Vous savez très bien, quand vous regardez dans la glace, vous voyez la manière dont les autres vous voient. Tiens, quel drôle de tête j'ai aujourd'hui. Et c'est pas vous. Parce que vous pouvez vous regarder de l'intérieur. Évidemment, vous ne voyez pas de l'intérieur, mais quand même de l'intérieur. Vous êtes vivant de l'intérieur. Quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez l'extérieur, les apparences. Quand vous vous regardez de l'intérieur, vous voyez ce qu'il y a derrière les apparences. Le vivant, la manière dont on regarde. Vous voyez, c'est ça qu'il faut d'abord remarquer, c'est qu'il y a diverses manières de se connaître et de connaître l'homme. Il y a une manière, c'est sûr, le savant biologique connaît quelque chose. Il connaît quelque chose de très intéressant parce que il peut vite s'en servir au point de vue technique. C'est comme ça qu'est né l'art médical. À partir de la connaissance que j'avais de l'homme, est né l'art médical. Tandis que le philosophe, qui commençait à connaître ce que c'est que le vivant, il le connaît pour lui-même, sans aucun désir d'art médical. Aristote avait son père, qui était médecin. Et à la place d'aller vers l'art médical, il était vers la philosophie du vivant. C'est intéressant de voir ça. C'est pas la même chose du tout de connaître le vivant pour lui-même et de connaître le vivant pour le corriger. Pour l'assainir. Il est malade. On va essayer de le corriger. On va essayer de le guérir. C'est pas la même chose. On voit donc tout de suite qu'il y a divers types de connaissances. Il y a une connaissance philosophique. Connaître l'homme comme vivant. Et je suis seul à me connaître comme vivant. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez pas la même connaissance que moi. Vous me voyez, mais vous n'avez pas la même connaissance que moi. Moi, j'ai l'avantage de vous voir. C'est un immense avantage. Je modifie ma manière de parler en vous regardant. Tandis que vous, vous voyez que les faits, je change. Il y a diverses manières de connaître la même réalité. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est cela qui brise ce qu'on appelle le positivisme. Le positivisme, il n'y a qu'une seule connaissance qui est valable et qui est importante, c'est la connaissance scientifique. Mais pas du tout. L'ami connaît son ami autrement que celui qui sait de corriger son psychisme, de connaître son psychisme, c'est pas du tout la même connaissance. La connaissance amicale est autre chose. Alors, est-ce que ça va plus loin? C'est une autre question. C'est une autre connaissance. C'est la première chose à faire. C'est de connaître, je peux atteindre la même réalité sous des aspects différents. Alors, je précise tout de suite, qu'est-ce que c'est que la connaissance philosophique? Ce n'est pas une connaissance scientifique, c'est une autre connaissance. Ce n'est pas une connaissance artistique, non, c'est une autre connaissance. C'est la connaissance que j'ai de l'homme vivant, de moi vivant. Par amour pour cette connaissance,